Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous propose de commenter l'actualité dans 30 minutes. Nous parlerons de la tuerie de Garissa au Kenya. 148 victimes, dont une très grande majorité d'étudiants kényans, d'étudiants chrétiens tués par des islamistes chebabs. Sur place, évidemment, ce massacre soulève une fois de plus la question de la sécurité du territoire kényan face à la menace terroriste. Et parmi les solutions qui sont proposées, eh bien, le gouvernement envisage de construire un mur tout le long des 700 km de la frontière entre le Kenya et la Somalie. Un projet extrêmement coûteux qui ne fait pas l'unanimité. En tout cas, cette attaque contre un campus universitaire démontre une fois de plus la capacité de nuisance des Chebabs. Et comme Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins, les miliciens ne visent plus les forces de l'ordre, mais les civils. Alors, quelle doit être la réponse du Kenya? Comment l'Afrique peut-elle traquer les islamistes radicaux? Il y aura d'ailleurs, dans deux jours maintenant, une grande réunion des chefs d'État de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, car eux aussi sont confrontés au terrorisme et aux islamistes. La mobilisation du continent africain vous semble-t-elle efficace? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quelques 350 réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Sorel nous pose la première question de la semaine. Sorel nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour.
Bonjour Juan et chaleureuse retrouvaille Juan.
Merci. Bah écoutez, ravi de vous avoir sur l'antenne d'RFI. Alors vous avez une série de questions sur Dag Hammarskjöld qui fut secrétaire général de l'ONU au début des années 60.
Effectivement Juan, j'ai appris sur vos ondes il y a cela quelques jours. L'ouverture de l'enquête relative à la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU décédé en 1961 au cours d'un accident d'avion. Pourquoi avoir attendu plus de 50 ans pour l'ouverture de cette enquête? S'agissait-il ou s'agit-il d'un accident ou a-t-il été victime d'un attentat?
Alors c'est vrai que Ban Ki-moon a nommé un groupe d'experts indépendants pour examiner les derniers éléments d'enquête concernant la mort de Dag Hammarskjöld. Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour Juan, bonjour Sorel.
Merci d'être avec nous, les auditeurs d'RFI vous connaissent bien. On vous retrouve tous les samedis et dimanches pour une semaine d'actualité et le magazine Idée. Et par ailleurs, Pierre-Edouard, vous êtes spécialiste des questions onusiennes. Et il faut peut-être rappeler aux plus jeunes de nos auditeurs, ou aux moins jeunes aussi, que Dag Hammarskjöld a été l'un des grands secrétaires généraux de l'ONU. Il a véritablement marqué l'institution.
Alors, quand on parle de Dag Hammarskjöld à l'ONU, tout le monde, ou presque, surtout les générations les plus anciennes, s'accordent pour dire qu'il a été sans doute le plus grand, à ce jour encore, secrétaire général de l'ONU. Il faut rappeler qu'il a été le deuxième secrétaire général de l'ONU, élu une première fois en 53, réélu en 1957, donc il était vraiment installé dans sa fonction. Sur le plan personnel, c'était un grand intellectuel, un poète. Alors, il faut rappeler qu'il était d'origine suédoise. Et c'est lui qui a inventé le terme à propos de l'exercice de sa fonction, la nature de sa fonction, de secrétaire général, le terme de pape laïque. C'est dire à quel point il avait une haute idée de sa fonction.
Effectivement.
Un grand intellectuel donc qui a laissé, après sa mort, de grands souvenirs. Et par exemple, la bibliothèque de l'ONU, le centre de recherche de l'ONU, s'appelle le centre Dag Hammarskjöld.
Ouais, alors Dag Hammarskjöld est mort le 18 septembre 1961 dans des circonstances mystérieuses. Il y a beaucoup de rumeurs autour de sa mort. Pourquoi ouvrir une enquête aujourd'hui, 54 ans après?
Alors il se trouve, Juan, il se trouve, Sorel, que depuis quelques années, il y a des informations qui sont publiées par différents canaux, par différents moyens, un livre en Grande-Bretagne d'enquête en 2011, une grande enquête du quotidien Le Guardian en Grande-Bretagne aussi en 2012, une enquête de juristes en 2013 qui montre qu'en fait ce que l'on a présenté comme un accident d'avion, un crash, aurait été plutôt un attentat, c'est-à-dire qu'il y aurait l'avion qui transportait le secrétaire général de l'ONU, on verra pourquoi dans un instant, vers le Congo, aurait été abattu par un autre avion qui qu'il l'aurait vraiment abattu en vol. Et il faut prouver évidemment l'existence de cet avion et savoir qui était à bord.
Oui, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, le secrétaire général de l'ONU tentait de résoudre le conflit qui déchirait le Congo, l'ex-Zaïre.
Alors, il faut dire, et ça a des résonances actuelles, c'est-à-dire que depuis l'existence quasiment des Nations Unies, l'ONU s'occupe à une relation évidemment dramatique avec le Congo. Alors, il faut rappeler quelques dates. Le Congo prend son indépendance le 30 juin 1960 et deux semaines plus tard quasiment, le Katanga, qui est sa province sans doute la plus riche, décide de faire sécession. Et à partir de là, Dagmar Marshall et l'ONU, il faut préciser aussi que Dagmar Marshall était un fervent partisan des indépendances africaines, se sont mis sur la route des Katangais, soutenus par les deux puissants intérêts miniers pour que le Katanga continue à faire partie du nouveau Congo plutôt que devienne une province, un nouvel État. Et là, va s'engager à partir de 1960, une guerre diplomatique et ensuite une guerre tout court entre l'ONU et les Katangais pour que le Katanga rejoigne les rangs du Congo. Et Dagmar Marshall va être le fer de lance de cette réintégration du Katanga au Congo, ce qui va lui faire qu'il va se créer des ennemis aussi bien du côté des responsables katangais, notamment de la part de Moïse Tshombe qui dirigeait la sécession katangaise, et aussi bien aussi de la part des grandes puissances dont certaines n'appréciaient pas son activisme en quelque sorte en faveur de l'indépendance du Congo.
Ouais, c'est passionnant. Sorel, vous avez une autre question? Sorel?
Oui.
On vous écoute.
50 ans après cet accident, le temps a passé. Et quelles sont les chances qui restent de trouver probablement les coupables?
Ah, quelles sont les chances de retrouver les coupables, Pierre-Edouard Lelic, en quelques mots?
La commission dont on parlait à l'instant, nommée par Ban Ki-moon et qui va commencer ses travaux, va reprendre des demandes qui ont été faites précédemment, c'est-à-dire notamment de déclassifier des documents de grandes puissances aux États-Unis et pas seulement en France et en Grande-Bretagne, et notamment déjà des écoutes de la CIA et de la NSA qui auraient enregistré des conversations du pilote de l'avion et la tour de contrôle pour essayer d'en savoir plus sur les circonstances de cet accident qui n'en est pas un, de cet attentat, et essayer de faire la part des choses. La question de savoir si les grandes puissances du Conseil de sécurité vont déclassifier ces documents pour essayer de savoir si il s'agissait vraiment d'un attentat, si un deuxième avion a descendu l'avion qui transportait le secrétaire général et 15 autres personnes, et savoir pourquoi, qui a fait ça. On parle beaucoup, la thèse qui revient le plus souvent, c'est la thèse de mercenaires qui auraient, pour le compte du Katanga et des mines katangaises, descendu l'avion du secrétaire général.
Les mercenaires Katangais, il y a aussi la rumeur de la CIA ou encore celle de l'Union minière du Haut-Katanga qui soutenait à l'époque la sécession. À suivre en tout cas, ce groupe d'experts nommé par Ban Ki-moon devra présenter son rapport au plus tard le 30 juin, donc dans 3 mois maintenant. Merci beaucoup Pierre-Edouard Deldic d'avoir été avec nous. Bonne journée, on remercie évidemment Sorel qui nous appelait de Douala. Razak est en ligne de Conakry en Guinée. Bonjour Razak. Allô Razak. Ah, on l'a perdu Razak. On va essayer de le retrouver dans un instant. 33 9 693 693 70. On a reçu plusieurs questions sur le Nigeria après la victoire historique de l'opposant Muhammadu Buhari à l'élection présidentielle. D'ailleurs, toute la première partie de demain sera consacrée à cette victoire historique. Bon, on va déjà prendre une première série de questions. Sironet, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Cameroun, on vous écoute.
Oui, Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Ma question concerne Boko Haram. Après l'euphorie de l'élection très démocratique de Muhammadu Buhari, ma question consistait à savoir quelles sont les mesures qu'il pourrait prendre pour rapidement mettre fin aux atrocités de Boko Haram.
C'est vrai qu'il a fait de la lutte contre Boko Haram une priorité. Bonjour Philippe Hugon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions africaines, directeur de recherche à l'IRIS, hein, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Muhammadu Buhari fera-t-il mieux que son prédécesseur? Est-ce qu'il sera plus efficace contre Boko Haram que Goodluck Jonathan?
Oui, je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a été élu et qu'il y a eu cette alternance démocratique. Pourquoi est-ce qu'il sera plus efficace? Je pense que d'abord, il est originaire du Nord, il connaît bien donc les zones où sévit Boko Haram. C'est un homme qui est un ancien militaire, qu'on a considéré comme un homme fort, avec quelques dérives, voire dictatoriales, lorsqu'il était au pouvoir en 83, mais c'est également quelqu'un qui a lutté contre la corruption, c'est quelqu'un qui est très populaire dans l'armée du Nigeria, et donc je pense qu'il saura à la fois remobiliser l'armée nigériane, c'est sûr, il saura également trouver des modes de négociation entre les différents protagonistes militaires, les chefs traditionnels, les responsables religieux, les différents hommes politiques, et je pense qu'il sera capable de gérer des coalitions, et il est évident également que la question, elle n'est pas que militaire, il faut qu'on ne soit pas dans ce cycle de répression très violente et de mouvements terroristes et violents de Boko Haram, il faut évidemment également agir par rapport à des régions qui sont relativement marginalisées ou qui sont même en déshérence.
Et justement, excusez-moi, le fait qu'il soit musulman, qu'il vienne donc du Nord où Boko Haram est actif, est-ce que c'est un atout?
Alors, c'est un atout évident, d'abord parce qu'il connaît extrêmement bien cette région et il sait très bien différencier ce qui est du domaine, je dirais, du religieux et du rôle des chefferies traditionnelles, des lamido qui sont dans le champ du religieux, des mouvements extrémistes qui se réfèrent évidemment à l'islam, mais qui sont totalement dans un registre, en fait, qui est de la violence extrême et qui n'est pas du tout religieux. Donc le fait, effectivement, que ça soit un homme du Nord, qu'il a été élu avec une très forte légitimité, je pense que ça donne la possibilité de lutter contre Boko Haram. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des mouvements d'action kamikaze. Il y aura évidemment encore des actions violentes de Boko Haram. Merci. On ne lutte pas contre le terrorisme uniquement par des actions militaires.
Et puis rappelons que Buhari ne sera investi que le 29 mai. Et d'ici là, évidemment, on peut s'interroger sur le rôle des autorités qui restent au pouvoir encore donc jusqu'à la prestation de serment. Autre question, reste avec nous Philippe Hujon. Abou est avec nous d'Abidjan. Bonjour Abou.
Bonjour M. Wan.
On vous écoute.
Bonjour Olivier Derafi. Ma question concerne la coalition qui combat Boko Haram. Après l'annonce de la victoire de M. Buhari, quelles sont les réactions des pays de la coalition qui combat Boko Haram?
Alors, Philippe Hugon, on imagine que la défaite de Goodluck Jonathan doit faire des euros dans les pays voisins.
Oui, alors si on prend les populations, ça a été évidemment, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Niger, que ce soit au Tchad, ça a été considéré comme étant globalement une victoire de la démocratie, alternance démocratique par rapport à un pouvoir en place. Et donc ça a été un des moments de liesse, surtout au Cameroun, mais également il y a eu des réactions de la population. Alors en ce qui concerne les responsables politiques de ces pays, il faut savoir qu'effectivement il y a une coalition qui quand même a fait montre d'une certaine efficacité les derniers mois, et donc Boko Haram a perdu de sa puissance militaire, qu'il a été éliminé pratiquement de toutes les villes. Il faut savoir également qu'il y a une mobilisation, puisqu'il y a dans deux jours à Malabo, en Guinée équatoriale, une réunion à la fois de la CEDEAO et de la CEAC, où sera présent l'ancien chef d'État, enfin qui est toujours en poste, c'est Goodluck Jonathan, puisque Buhari, comme ça a été rappelé, ne sera intronisé que le 29 mai. Il y aura donc une mobilisation plus grande des forces à la fois d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ceci étant, il faut quand même ne pas être angélique. On sait très bien que la coalition supposerait un commandement unique, ce qui n'est pas le cas. On sait que l'armée tchadienne est quand même très puissante et que les autorités nigérianes sont toujours sourcilleuses de leur souveraineté nationale.
Et surtout Buhari, hein, on ne le dit pas assez, mais Buhari est un nationaliste et il tient vraiment à l'intégrité territoriale du pays. Donc on peut s'attendre, dès que Buhari arrivera au pouvoir, au départ de l'armée tchadienne du sol nigérian.
Absolument, ça je crois que ça, c'est tout à fait prévisible. Il faut savoir également qu'il y a quand même des tensions qui continuent d'exister, notamment entre le Nigeria et le Cameroun, à propos de Bakassi ou à côté de, ou à propos de délimitation frontalière. Et donc, comme Bouhari est un ancien militaire extrêmement nationaliste, il va renforcer l'armée nigériane, mais ça ne va pas rendre très facile une coalition régionale.
On suivra ça. Merci beaucoup, Philippe Hugon, d'avoir été avec nous, spécialiste des questions africaines, directeur de recherche à l'IRIS. Avons-nous Razak? Puisque le réseau passe et il coupe très souvent. Razak, vous êtes avec nous? Eh bien, ça coupe. Alors ça, on l'a en antenne, mais dès qu'on le passe à l'antenne, le réseau coupe. Je vais me faire votre porte-parole, Razak, surtout ne vous inquiétez pas. Je sais que vous nous avez contacté par téléphone, envoyé un mail. Vous teniez absolument à poser cette question. Question d'ailleurs intéressante. L'Éthiopie veut construire un immense barrage sur le Nil Bleu. L'Égypte s'était d'abord opposée à sa construction, mais finalement, les deux pays ont trouvé un accord. Mais quel est le contenu de cet accord? Alors, c'est une très bonne question, puisque effectivement, les modalités de cet accord n'ont pas été rendues publiques, mais je ne doute pas que Marc Lavergne, qui est spécialiste des questions liées au Nil, aura certainement un élément de réponse. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. D'abord, on replante le décor vraiment en quelques mots. Rappelez-nous pourquoi l'Éthiopie voulait à tout prix construire ce barrage qui sera à terme le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique.
Ce barrage s'appelle le barrage de la Grande Renaissance. Hein. Je crois que c'est un symbole assez fort. Ça indique la volonté de l'Éthiopie aujourd'hui de mettre la priorité sur son développement économique. Et c'est un pays qui est jusqu'à présent extrêmement agricole, avec une population majoritairement rurale. Et l'électricité va être le facteur de développement de l'économie égyptienne, qui n'a pas de pétrole. Hein. Donc ça va être une sorte de succès d'année au pétrole. Alors c'est aussi une ressource de devise, parce que cette électricité va être produite et vendue dans les pays voisins. Ça, c'est le projet stratégique, si vous voulez, du gouvernement éthiopien, du temps du défunt Premier ministre Meles Zenawi, qui a été repris par son successeur, bien entendu, et qui engage une mobilisation générale de toute la population éthiopienne. Alors, ce barrage, finalement, il s'explique parce que l'Éthiopie est un massif, le massif abyssin, qui est une sorte de plateforme, de donjon de l'Afrique orientale, d'où coule le Nil Bleu, mais aussi d'autres affluents du Nil principal qui sont l'Atbara en particulier, et puis il y a d'autres fleuves qui se perdent dans les sables à l'intérieur même de l'Éthiopie ou bien qui descendent vers la Somalie.
Et l'Égypte, évidemment, a vu le projet éthiopien comme une véritable menace à sa propre sécurité.
Et oui, parce que il y a trois partenaires finalement. On oublie un petit peu le Soudan qui fait le lien entre l'Éthiopie et l'Égypte, mais qui est aussi partie prenante à cet accord. Alors il y a le seul accord qui existe aujourd'hui pour gérer les eaux du Nil, c'est l'accord de 1959 entre l'Égypte et le Soudan. Donc ils partagent la totalité des eaux du bassin du Nil qui arrive au Soudan entre les deux pays. L'Éthiopie a toujours contesté la validité de cet accord et a demandé à y être partie prenante, qui a été refusée. De la même manière pour les pays d'amont, les pays autour du lac Victoria.
Alors un accord a finalement été signé. On rappelle que quand même la crise a à un moment donné bien failli dégénérer en guerre ouverte. Que stipule cet accord? Pourquoi d'abord a-t-il été maintenu secret? Avez-vous des idées sur le contenu, sur les différents points qui ont été signés il y a quelques jours?
Ce qu'on peut dire, hein, n'ayant pas été sous la table, c'est que les préoccupations de l'Égypte sont son approvisionnement en eau, puisque l'Égypte considère que c'est sa seule source pratiquement d'eau potable, d'eau douce. Et l'Égypte a des projets, elle aussi, de son côté, d'agrandissement de son territoire habité et cultivé au bord du désert. Alors, l'Égypte ne veut pas changer l'accord de 1959 et elle estime que toute action qui vise à réduire le débit à l'entrée de l'Égypte, au sud de l'Égypte, est un acte de guerre. Mais il se trouve que les pays d'aval, comme l'Égypte aujourd'hui, ont assez peu de moyens de rétorsion, que ce soit en droit international ou que ce soit même militaire. Il y a eu effectivement des effets de manche, mais ce que les Égyptiens ont fait mine d'ignorer, c'est que c'est un barrage qui vise à produire de l'électricité.